Donc, on va faire un petit rappel. On n'a pas le temps d'aller très loin. On va faire un petit rappel parce que je pense qu'il faut se remettre dans le bain. Ça fait un an qu'on a quitté David. Et ce que je voulais signaler, c'est que cette année, c'est un petit peu, ça va être beaucoup moins agréable. Je pense que Dieu va nous parler, mais j'appréhende un peu parce que jusqu'à présent, on a vu tous les hauts faits de David. On a vu toutes ses victoires. Et je m'étais amusée à faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, il semblerait, certains commentateurs bibliques pensent que ceux qui ont écrit Chroniques un de Samuel ont probablement pas respecté une chronologie, c'est-à-dire c'est passé ça, puis ça, puis ça, puis ça dans l'ordre. Il semblerait qu'ils aient davantage regroupé les choses positives, les belles choses qui sont arrivées avec David, et puis ils ont pas mal regroupé après les choses problématiques. Hein, donc, si on refaisait la chronologie, peut-être on s'apercevrait que une fois il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a remporté une bataille, et puis pouf, derrière il s'est planté. Enfin voilà, bon, ça fait partie de la vie. Et quand on pense que l'un des personnages les plus importants de la Bible, c'est quand même David, puisque Jésus s'était présenté comme fils de David au sens généalogique. Quand on regarde la vie de David, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des hauts et des bas. Un homme de Dieu de ce calibre-là, enfin, rien que pour 14-15 ans, tuer Goliath, il fallait quand même avoir du cœur au ventre. Bien, il y a des hauts et des bas dans sa vie, jusqu'au bout. Et on peut regarder David de deux façons. Alors, dans les milieux évangéliques, c'est vrai qu'on a tendance à voir tout le positif de David, l'homme de Dieu, l'homme de louange, le cœur d'adorateur, l'homme qui sait se repentir, etc. Mais on peut aussi voir David complètement différemment. Et cette année, il faudra essayer de garder un équilibre parce qu'on va voir toutes sortes d'événements négatifs. Et quand j'ai travaillé déjà depuis plusieurs années sur David, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est probablement ce qui va nous arriver encore cette année. C'est pas possible qu'il ait loupé tel domaine de sa vie, qu'il ait loupé tel domaine. Il a été très mauvais. Là, ça va être dur, hein, de dire cette année, ben là, il a été très mauvais. Ça fait mal. Parce qu'on voudrait voir tout le bon côté de David. Et je pense que c'est vrai pour chacun de nous. Hélas. Si on regarde que le mauvais côté de nos personnalités, que tout ce qui va pas, tout ce qui est pas bien fait, tout ce qui est... Bon, bah, j'allais dire, c'est bon pour le suicide, là. Voilà. Et si on regarde que le bon côté, oh, bah, on s'illusionne, c'est pas mieux. Donc voilà, il faut accepter que dans nos vies, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bons et des mauvais côtés. Et voilà, on aimerait bien que les gens qu'on aime n'aient que des bons côtés. Ce serait bien, hein? On aimerait bien soi-même n'avoir que des bons côtés. Mais la réalité, et c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible est un livre de réalité. Elle voit les choses comme elles sont. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres livres religieux qui soient capables de présenter un héros comme David, ou Abraham, ou Joseph, ou etc., ou Moïse, qui soient capables de présenter les deux côtés. Les erreurs, les bonnes choses. Les fautes, les bénédictions. Et vous savez ce que ça prouve, ça? Ça prouve que la parole de Dieu est authentique. Elle est vraie. Elle est digne de notre confiance. Parce qu'elle prend la réalité comme elle est. Elle ne va pas dorer quelqu'un sur tranche sous prétexte qu'il a fait des hauts faits. Et elle va pas non plus l'enterrer et lui mettre le couteau dans le dos parce qu'elle a fait des bêtises. Et ça, je trouve formidable. Ça, c'est un reflet d'ailleurs de l'amour du Père, l'amour de Dieu. Et je ne savais pas qu'Edouard allait parler du Père ce matin. Et je me suis dit, oh mince, dans mon texte de ce matin, je ne crois pas qu'il y a la mention du Père. C'est curieux, c'est dommage. Mais non, mais je me suis trompée. Au verset 14. Dieu dit, moi je serai son père et lui sera mon fils. Il parle du successeur de David. et bien sûr de Jésus par extension. Voilà, donc c'était dans mon texte aussi ce matin. Alors malheureusement, je ne pense pas que j'irai jusque-là, mais on va faire un petit rappel de la vie de David, et vous allez voir que c'est une vie compliquée. Et parfois, on regarde notre vie, on se dit « Seigneur, je te sers », mais alors, ouh, c'est les montagnes russes dans ma vie. Oh là là, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de douloureux, tout ce qu'il y a de réjouissant. Pff, quelle salade. Eh bien, vous allez voir, c'est pas mieux chez David. Quand Dieu nous appelle, ben voilà, il y a un peu de tout dans nos vies. Ça aussi, c'est une preuve d'authenticité. Il faut le reconnaître, sinon on serait hypocrite. Alors, on commence avec un jeune berger. Génial. Vous imaginez tout de suite le gars libre dans la nature avec ses moutons. Oui, enfin bon, il était capable de tuer les ours et les lions qui attaquaient ses moutons. Jeune berger, oui, mais oublié par son père. Le jour où ils reçoivent le prophète Samuel, ben, on avait beau penser à lui, c'était le petit. C'était dans les champs, ses moutons. Oublié par son père et puis ignoré par ses frères. Il n'y en a pas un qui a été capable de dire « Papa, on a oublié David ?» Non. Et puis, finalement, c'est lui qui va recevoir l'onction du prophète Samuel pour être le prochain roi. Je ne sais pas s'il a tant compris ce jour-là, mais bon. Puis, le voilà sur le champ de bataille. Il vient ravitailler ses frères parce qu'on lui a demandé, il fait ce qu'on lui demande. Et là, il est humilié et méprisé par ses frères. Ça ne l'empêchera pas de tuer le géant Goliath. Je ne vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez par cœur. Et puis, le voilà qui va être engagé par le roi Saül, pas seulement pour lui jouer de la musique, mais il va être à la tête de son armée. Il va être ami avec le fils du roi, Jonathan. Ça va être son ami très proche, plus qu'un frère. Et puis, il va se marier avec la fille du roi, Michal. Et malheureusement, ça finit mal. C'est une belle histoire quand même. Il gagne la victoire, il est ami avec le fils du roi, il est à la tête de l'armée, il remporte victoire sur victoire en plus. Hein. Il entraîne l'armée dans des victoires sur les bandes de pillards qu'il y a autour du pays. Oh, tout va bien. C'est comme dans les contes de fées, il se marie avec la fille du roi. Oui, eh ben c'est foutu. Voilà qu'à cause d'une chanson qui courait dans les rues, Saül devient jaloux de lui. Et Saül va le poursuivre. Poursuivi par Saül complètement injustement, il va garder son respect pour Saül et grâce à la protection de Dieu, il va être sauvé in extremis dans toutes sortes de moments difficiles. Voilà, c'est pas drôle. Hein. Obligé de fuir dans des zones désertiques, dans des cavernes, avec 4 à 600 hommes qui le suivent, ça augmente au fil du temps. Il va même jusqu'à se réfugier chez les ennemis du peuple d'Israël, les Philistins. Il va même arriver à jouer double jeu. Je ne suis pas sûre que ce soit très correct. Il rapporte du butin qu'il prend sur les bandes de pillards et il fait croire aux Philistins qu'il s'est battu contre les enfants d'Israël. Mais il y a des princes philistins qui avaient quand même le coup d'œil et puis qui se sont méfiés, qui ont dit « Allez, on va à la guerre contre Israël, mais on n'emmène pas David. Hein. » Ils ont bien fait. Enfin, ce n'est pas un épisode très glorieux, je trouve, quand même. Hein. Heureusement, grâce à Dieu, il a été rejeté. Et du coup, il n'a pas eu besoin de se battre contre son peuple. Je ne sais pas comment ce serait passé. Et puis, après ça, il retourne dans la ville que les Philistins lui avaient accordée. C'est gentil, hein. Pour découvrir qu'elle était brûlée, que toutes les femmes de son armée avaient été volées avec les enfants, les troupeaux et tous les biens. C'est pas drôle. Finalement, il va se battre pour récupérer tout ça. Grâce à Dieu, il récupère tout. Dieu permet qu'on récupère ce que l'ennemi nous a volé. Et je pense pour nous tous qui avons des sujets de prière où l'ennemi nous a volé des choses capitales, je crois qu'on peut être encouragé par ce texte de David. Il a tout récupéré. Il retourne en Israël, où il s'était fait des bons amis dans la tribu de Juda, bien sûr. Et puis là, il va apprendre la mort de Jonathan et Saül. Et ça va être une catastrophe pour lui, parce que Jonathan, c'était plus qu'un frère pour lui. Il fait un chant funèbre extraordinaire. Et puis, il devient, à la suite de ça, roi de Juda. Donc, juste une tribu. Il y en avait 12 des tribus. Bon, il y avait la tribu de Lévi qui n'avait pas de territoire, mais voilà, il est roi d'une seule tribu. Mais pourquoi Dieu lui a donné l'onction royale? Mais enfin, pour qu'après tout ce qu'il a vécu, là, il soit roi d'une seule tribu. Moi, souvent, je me dis, mais le pauvre, je me demande s'il n'y a pas eu des moments dans sa vie où il s'est dit, mais pourquoi Dieu m'a donné l'onction? Pour que j'ai autant d'enquiquinement? Pour que je risque ma vie en permanence? Mais pourquoi? Et pourquoi? Pour finir par être roi d'une seule tribu. Et puis, il y a toute une succession, vous vous souvenez, d'événements difficiles. Et puis, il va devenir roi sur tout Israël. Ah, quand même. Mais les années se sont passées, hein. Et il va faire la conquête de Jérusalem. Ah, on en parle encore aujourd'hui, hein. Ce n'est pas des contes de fées. Hein, il y a des gens parfois qui pensent que la Bible raconte n'importe quoi. C'est encore la ville de David. On l'appelle encore aujourd'hui la ville de David, le drapeau israélien, l'étoile de David. Enfin, c'est curieux, hein. Ah oui, c'est pas des contes de fées. Il va conquérir Jérusalem sur les Jébusites, et puis il fait de Jérusalem sa capitale. Ça l'est encore aujourd'hui. Il remporte de grandes victoires avec l'aide de Dieu sur différents peuples ennemis, dont les Philistins. Des victoires inattendues. Un jour, Dieu lui dit « Vas-y, fonce, bats-toi, tu vas gagner. » Puis un jour, il dit « Non, non, attends d'entendre ma voix dans la cime des arbres, le bruit de mes pas. » Curieux, mais il est très respectueux de ce que Dieu lui demande. Moi, j'admire. Même situation, mêmes ennemis, même endroit. Moi, j'aurais fait la même chose que la première fois, hein. Moi, je ne cherche pas les complications. Eh bien non, il redemande à Dieu, comment je fais? Est-ce que je descends? Dieu dit non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, tu vas attendre d'entendre le bruit des pas dans la cime des mûriers. J'aime énormément ce texte. Enfin, on avait terminé l'année dernière sur l'Arche de l'Alliance. Vous avez ce coffre qu'on portait et qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple. À l'intérieur, il y avait l'étape de la loi, etc., beaucoup d'autres choses. Et là, il fait une fête extraordinaire. Il va danser devant l'arche. Il est fou de joie. Enfin, on ramène le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Bah oui, mais sa femme trouve ça catastrophique. C'est pas très royal de danser comme ça. Elle se moque de lui. Elle lui cache pas son mépris pour une fois vraiment trop exubérante. Bon, c'est pas marrant. Bon, problématique. Et l'an dernier, on avait terminé en évoquant le début du chapitre 6 de 2 Samuel. On s'était arrêté là. Donc là, on a revu un petit peu les grandes lignes de la vie de David. Et c'est là qu'on va reprendre l'étude de sa vie et de son règne. Alors, j'ai juste quelques minutes pour lire le début, pour reprendre, faire la jonction avec l'année dernière. Donc, c'est le chapitre 7, verset 1. « Lorsque le roi fut installé dans sa maison... » Donc, vous voyez, là... Le temps est passé, hein. Il est installé, il est roi de tout Israël. Et que le Seigneur lui accordait le repos. Ouh, il y a des moments de repos aussi dans nos vies. Hein, c'est pas tout le temps la guerre. Bon, parfois on a l'impression que c'est tout le temps la guerre, mais non, Dieu accorde des moments de repos. En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit à Nathan le prophète, « Regarde, je te prie. J'habite une maison de cèdre. » Ça devait sentir bon. C'était donc des maisons en pierre qui étaient lambrissées de plaques de cèdre. Vous savez que le cèdre, en plus, c'est antimite. Hein. Et ça devait sentir très bon, je pense, hein, ces planches de cèdre fraîchement coupées qui recouvraient les murs de pierre de son palais. « J'habite une maison de cèdre alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi, « Va ! Fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Ah. Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il aurait dû dire. Mais on va juste commenter ça et on s'arrêtera là. David entre donc dans une période de repos. C'était une promesse de Dieu, une grâce de Dieu. Il n'y avait plus d'oppression extérieure. C'était une période où les ennemis, où ils avaient été vaincus, où ils étaient soumis à un impôt, et où on va enfin être tranquille. Imaginez, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le roi de Tyr, donc c'est une ville sur la côte hein, qui existe toujours, lui avait envoyé des tailleurs de pierre, des charpentiers et du bois de cèdre. Beau, c'est formidable. Son palais devait être extrêmement beau, vous imaginez, un beau palais comme avec des grosses pierres de taille, là, comme à l'époque, et puis lambrissé de cèdre. Mais peut-être y voyait de par ses fenêtres le coffre de l'Alliance qui était là sous une toile de tente. Alors c'était des peaux de bête, hein, c'était pas Trigano, hein. C'était des peaux de bête, c'était du tissu tissé. Hein. Mais penser que le symbole de la présence de Dieu était sous une toile de tente, ça devait quand même être problématique. S'il se mettait à sa fenêtre, il regardait ça. Bien sûr, la tente était conforme aux instructions qui avaient été données à Moïse. Mais c'était quand même gênant à regarder. C'est pour ça qu'il dit à Nathan, regarde. Effectivement, ça frappe les yeux. David, le petit berger devenu roi, est dans un palais en pierre, lambrissé. Et le coffre, symbole de la présence du Dieu Tout-Puissant, Créateur, il est sous une simple tente, fragile. Imaginez que ce jour-là, quand ils ont regardé, il y avait de la pluie et du vent. Vous imaginez l'effet produit ? Lui, dans son beau palais, et puis cette tente qui bouge, là, pourvu que ça tienne, qu'elle soit bien accrochée. Vous voyez le visuel ? Regarde, il dit au prophète, regarde. Qui était ce prophète ? C'est la première fois qu'il apparaît dans la vie de David. Mais alors, on va en entendre parler. Hein ? Il va avoir un rôle très important pendant le règne de David et de Salomon. Alors, il ressemble un peu au prophète Samuel, hein, qu'on a étudié avant David. Il ressemble un peu au prophète Samuel, mais ce qui est formidable chez Nathan, il est indépendant du pouvoir politique. Parce que vous allez voir, parfois, les rois avaient des prophètes qui leur étaient attachés ou qui étaient attachés à la cour. Et ça, ça posait problème. Et là, il est indépendant du pouvoir politique, il est indépendant de la cour royale. Il n'appartient pas non plus au personnel du culte, comme Tsadok ou le prêtre Abiathar. Il est totalement indépendant. Et ça, c'est important. Il est capable d'entendre ce que Dieu veut lui dire et de le répéter avec l'autorité de Dieu, sans être influencé par l'entourage du roi ou le roi lui-même. C'est ce qui va permettre à Nathan de reprendre David. C'est ce qui va permettre à Nathan de transmettre les paroles de Dieu. Et ça, c'est important. Et moi, je l'imagine à la fenêtre du palais ou sur la terrasse. Il regarde le palais de David et puis il regarde la tente. C'est logique, ça saute aux yeux. Quand on regarde objectivement la situation, il a envie de dire, vas-y, construis une maison. Fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Ah, seulement un prophète, il ne doit pas seulement regarder. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on fasse attention aussi, même si on n'est pas prophète. Mais particulièrement, les gens qui ont une veine prophétique, attention. Il ne faut pas se contenter de regarder, il faut aussi écouter Dieu parler. Et ça, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comment faire la différence entre mes sentiments, mes impressions, mon ressenti, et puis Dieu qui me parle ? Alors, si vous savez le faire facilement, donnez-nous des conseils, parce que ce n'est pas simple. Moi, je trouve ça difficile. Eh bien, Nathan, moi, c'est ce que j'admire chez lui. Il est tout content, il a regardé, il a vu, il a compris, il a dit, vas-y, fais ce que tu as à cœur. Et cette nuit-là, il reçoit la parole du Seigneur. Ah, il s'est écouté. Il n'est pas influencé par la politique, la cour, la prêtrise. Il entend la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que lui dit le Seigneur ? Eh bien, ça va être l'objet de ce qu'on va travailler la semaine prochaine. En fait, on s'aperçoit qu'il avait parlé en tant qu'homme à David. Il a exprimé les pensées de son cœur, mais il n'avait pas donné la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait peur parfois quand on parle. Est-ce qu'on parle de la part de Dieu aux gens ou est-ce qu'on exprime simplement les pensées de notre cœur ? Là aussi, ce n'est pas facile. Et il faut être attentif. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'homme qui était à l'origine de nos églises, hein, qui est décédé maintenant, mais il nous disait toujours, chaque fois que vous avez une parole pour quelqu'un, dites bien, j'ai l'impression que Dieu m'a dit. Je crois que Dieu m'a dit, mais n'affirmez pas. On ne sait jamais, on est humain. Et il y a un dernier truc qui m'a fait plaisir dans ce texte. C'est que ce brave Nathan, qu'on admire beaucoup, hein, il est allé de tout son cœur, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Puis derrière, Dieu lui parle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce que Dieu lui dit ? Nathan, tu n'as rien compris, tu ne m'as pas écouté, la prochaine fois, fais attention. Non. La parole du Seigneur vient à Nathan, va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison ? Pas de reproche ! Vous voyez, quand on vit toujours dans la peur que Dieu vous retombe dessus si vous faites une bêtise, les hommes nous retombent dessus, c'est normal. Mais Dieu n'est pas comme ça. Pas l'ombre d'un reproche. Mais il avait pourtant parlé au nom du Seigneur. Il avait pourtant encouragé David, etc. Pas de reproche. Il dit simplement, maintenant tu retournes et tu vas lui dire ce que je pense. Moi j'aime ça avec le Seigneur. Il lui fait aucun reproche, mais il le renvoie vers David. Hein. Et puis de façon très claire, va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Autrement dit, la dernière fois c'est toi qui as parlé, cette fois-ci c'est moi. Hein ? Un petit peu d'humour aussi là-dedans. Et il le renvoie pour parler à David comme porte-parole de Dieu et pas comme porte-parole de son propre cœur. Je crois que si un prophète comme Nathan pouvait se tromper et laisser parler son cœur au lieu de celui du Seigneur, à combien plus forte raison nos prophètes au XXIe siècle peuvent s'égarer aussi dans leurs pensées. Et plus gravement encore s'ils sont attachés à des personnages importants dans la politique, les affaires ou même dans les églises. C'est important qu'un prophète écoute le Seigneur. Et nous aussi, un jour ou l'autre, on est appelé à donner une parole à quelqu'un. Faisons attention de que ce ne soit pas le reflet de nos attachements, quels qu'ils soient, politiques, religieux, affectifs, mais que ce soit vraiment la parole du Seigneur. Et prions que Dieu lève des prophètes comme Nathan. On va découvrir tout ce que Dieu lui a dit. Vous allez voir comment Nathan est très clair dans ce qu'il transmet. Et prions que Dieu lève des prophètes comme Nathan, qui ne se fient pas à leurs pensées, à ce qu'ils voient. Ça, c'est dur, hein, parce que ce qu'on voit, c'est quand même ce qui nous influence. Mais qui se fondent sur leur écoute du Seigneur. Hein, tout à l'heure, Florence nous a dit de faire ce geste. Hein. Écoutez. Écoutez Dieu, c'est pas facile. Et sont prêts à corriger leurs erreurs, comme Nathan. Nathan, il a obéi. Ok, je me suis planté. Il n'en a pas fait un plat. Il est retourné voir David et il lui a donné ce que Dieu avait dit à dire, c'est tout. Un prophète peut se tromper s'il parle avant d'avoir entendu. Quelqu'un a dit ça. S'il parle avant d'avoir entendu. Et on est tous, un jour ou l'autre, amenés à parler avant d'avoir entendu. Mais Dieu nous pardonne et soyons à son écoute. Parce que souvent, la parole de Dieu peut être complètement à l'opposé du sentiment personnel du prophète ou du chrétien, tout simple. Hein. Et vous rappelez, dans 1 Samuel 8, à propos du choix du roi, « Je n'étais pas d'accord, Samuel. Non, il faut refuser, etc. » Et puis Dieu lui dit « Laisse, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Ils veulent un roi, on va leur en donner un. » Donc, le sentiment personnel du prophète, c'est une chose. Mais l'écoute de Dieu, c'en est une autre. De même, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne et conforme à la parole de Dieu qu'elle correspond à l'appel de Dieu pour nous. On va le voir pour David. C'était bien l'idée de faire une maison plutôt qu'une tente. Quand même, ce n'est pas un péché. C'était une bonne idée. Enfin, concrètement, matériellement, je trouve que c'était une très bonne idée. Mais ce n'est pas parce que l'idée est bonne et qu'elle est conforme à la parole de Dieu qu'elle correspond à l'appel de Dieu pour nous. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire ? On le verra la semaine prochaine. Ce n'est pas toi qui vas construire. C'est ton fils. Oh, c'est dur, hein ? Mais on peut vouloir ou rêver de quelque chose. L'important, c'est d'écouter le Seigneur. Parce que c'est son appel qui est primordial. Ah, mais c'est bien ce que je veux faire. C'est conforme à la parole de Dieu. Ok, mais est-ce que c'est ton appel ? Et je déplore le nombre de chrétiens de bonne volonté qui ont perdu des années sur des choses qui n'étaient pas leur appel. Alors, soyons prudents et cherchons à écouter le Seigneur. C'est l'appel de Dieu qui est primordial. Il s'agit de ne pas faire ce qu'il n'a pas demandé. Et d'ailleurs, la première chose que Dieu va lui dire, on le verra la semaine prochaine, « Mais moi, je n'ai jamais demandé à être dans une maison !» C'est assez amusant d'ailleurs, là aussi il y a un petit peu d'humour. Dieu est un Dieu qui a de l'humour. Hein. Et il dit, mais moi, est-ce que j'ai déjà dit que je voulais une maison? Il le dit deux fois. Je l'ai dit, ça? Bah oui, quelquefois, on veut faire des choses que Dieu n'a jamais dites, que n'a jamais demandées. Et bah, ça prouve qu'on est bien humain et qu'on fonctionne avec nos sentiments et tout. Mais bon, vous avez vu avec Nathan, Dieu ne fait pas de reproches. Mais il nous corrige en temps voulu. Et soyons donc, je crois vraiment, soyons à l'écoute du Père, comme on l'a chanté ce matin, à l'écoute de Dieu. Nos sentiments, c'est bien. Parfois, ils coïncident avec ce que Dieu veut, mais soyons à l'écoute de Dieu. C'est quand même plus important. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons ta grâce pour écouter ta voix, écouter ton appel. Qu'on ne se contente pas de faire tout ce qu'on a envie avec notre cœur pour te faire plaisir ou pour faire quelque chose pour toi, mais que vraiment, Seigneur, on réponde à ton appel. Et ce n'est pas facile. À tout âge, aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à faire taire nos propres sentiments, nos ressentis, nos impressions pour écouter ta voix et te dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Aide-moi à voir comme toi, à entendre comme toi et à faire ce que tu me demandes. Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on puisse faire comme Nathan, être des porteurs de ta parole et pas de la nôtre, Seigneur. Amen.